Bonjour et bienvenue sur Nos Limites Sécu, le podcast où seul le temps nous limite. Le but de ce podcast est de vous donner un éclairage sur une problématique ou un événement qui marque l'actualité cyber. Alors aujourd'hui, un épisode dédié à DefNet. Donc DefNet est un exercice de cyberdéfense dont nous allons parler avec Sébastien Bombal, qui est réserviste cyberdéfense et qui a pris part à cet exercice. Avant de commencer, merci à nos nouveaux followers et un grand merci à tous ceux qui nous retweetent en nous publiant un nouvel épisode. Ça nous fait super plaisir et ça nous encourage à continuer. Alors ce soir, les contributeurs Nos Limites Sécu sont Éric Leblon.
Bonsoir.
Guillaume Prigent.
Bonsoir.
Nicolas Caproni.
Bonsoir.
Nicolas Prigent.
Salut.
Nicolas Ruff.
Hello.
Et moi-même, Johan Uloa. Alors Sébastien, bonsoir.
Bonsoir.
Donc, merci beaucoup de participer à cet épisode. Alors tout d'abord, est-ce que tu peux nous expliquer plus précisément ce qu'est DefNet ?
Oui, bien sûr. Donc DefNet, c'est un exercice de cyberdéfense. Hein. C'est la deuxième édition. La première, c'était en 2014, au mois d'octobre. Qui était donc un exercice pour le coup interarmé qui avait eu lieu donc sur Coëtquidan et qui était très très orienté pour le coup usage et test un petit peu de la notion de groupe d'intervention rapide avec une petite cellule de crise. Et il était prévu de faire quelque chose d'un peu plus ambitieux pour DefNet 2015 qui a eu lieu donc là au mois de mars. Et de tester, entre autres, l'exercice, de tester un nouveau concept, qui était le concept de la réserve de cyberdéfense à vocation opérationnelle, RCVO. Et donc voilà, donc l'exercice avait pour but, entre autres, de tester ce concept-là. Et c'est plutôt là-dessus que moi je suis intervenu.
Alors, justement, dans quel contexte tu as participé à cet exercice ?
Donc la réserve cyberdéfense à vocation opérationnelle, c'est un concept qui est né il y a quelques temps, hein, qui a été d'abord été une initiative, une idée, qui a ensuite été proposée dans les axes notamment du livre blanc de la défense et de la sécurité nationale, le dernier, avec pour objectif en fait d'avoir une capacité de réserve en cas de crise majeure. Déjà, pourquoi une réserve ? Aujourd'hui, quand on regarde effectivement les différentes possibilités qu'il y a de réserve, il y a la réserve opérationnelle. Donc là, on est sur du personnel militaire qui vient en soutien par rapport à une spécialité éventuellement, mais qui est surtout avant tout un militaire. On a la réserve citoyenne, qui sont donc des bénévoles du service public, qui vont avoir une action qui est plutôt des actions liées de ce qu'on appelle le lien entre la défense et la nation, donc plutôt des actions de réflexion, de sensibilisation, de communication, de réflexion. Mais en cas de crise majeure, où trouver potentiellement un grand nombre de ressources capables de soutenir et aider un certain nombre de dispositifs de l'État. En cas de crise majeure, il va falloir avoir énormément de soins, de médecins. Si on cherche à avoir des ressources, bien sûr, les ressources qui sont déjà en activité dans les hôpitaux, ils vont déjà avoir un certain nombre d'éléments à traiter. Donc on va activer une réserve supplémentaire. Où aller chercher cette réserve supplémentaire ? Généralement, dans la plupart des réserves, on va aller chercher les gens qui ont une activité, mais qui sont disponibles, donc plutôt des retraités. Pour nous, ça n'existe pas dans la partie cyber. Et on va prendre l'autre bout de la chaîne, qui sont ceux qui sont formés, mais pas encore effectivement sur le marché. Donc c'est plutôt la partie étudiant.
Les stagiaires ?
Les stagiaires, on en vient sur un statut étudiant quelque part. Hein. Ces populations-là, quand on regarde ce qui avait été fait dans la pandémie, par exemple, les derniers H5N1, on avait fait des vaccinations massives. Il y avait eu une directive qui avait été sortie, un décret qui était sorti, pour dire, on va aller prendre effectivement des populations qui sont à tel niveau d'études, mais moi je crois que c'était Bac+3 ou 4, à tel niveau d'études, pour effectivement faire les gestes de vaccination et venir en appui dans les centres de vaccination. Ça marche plutôt pas, ça a plutôt bien marché. Et l'idée, c'est si on calque ça au cyber, où il faudrait une grande quantité de main-d'œuvre sur effectivement un maillage territorial, relativement disponible, bah, où trouver ses ressources, si ce n'est effectivement potentiellement dans les études supérieures, que ce soit BTS, DUT, que ce soit école d'ingénieur. Et donc, bah, à partir de là, on pourrait éventuellement avoir quelques milliers d'hommes de ressources disponibles, quoi. Donc, c'est un peu l'idée. Là-dessus, effectivement, bah, il y a eu tout un travail préparatoire, hein, qui a été fait par l'EMA, qui a été fait en soutien avec la réserve citoyenne de cyberdéfense, et puis tout un tas de directions et de ministères, je dirais, qui sont parties prenantes, hein, ministère de l'Intérieur, la NSSI, etc., qui ont fait des travaux un petit peu préalables pour voir un peu, bah, le cadre juridique qui serait applicable, comment ça pourrait fonctionner, quelles seraient les limites d'engagement, les difficultés qu'on pourrait avoir, etc. Et donc on est arrivé sur ce concept de RCVO qui a été déjà bien préparé, qui a été annoncé par le ministre donc, au FIC, entre autres, 2015, et dont le concept a été testé là pendant des fenêtres.
Donc juste une chose, pour être sûr que je comprends bien, ça veut dire que finalement DEFNET c'était une tentative d'exercice entre guillemets, mais qui était ouverte à des gens qui appartenaient pas à la réserve citoyenne opérationnelle, à la réserve cyber opérationnelle pardon, mais plutôt, enfin ça embrassait plutôt large en fait pour prendre un peu la mesure, la température, ce genre de choses.
Ouais, enfin, c'est pas tout à fait ça. En fait, il y avait des parties purement, je dirais, ministère de la Défense, hein, dans le scénario. Et puis, il y avait des éléments de scénario qui étaient effectivement pour tester cette capacité d'emploi. Et puis, de voir, voilà, qu'est-ce que peut donner cette capacité, est-ce que le concept fonctionnerait, ou est-ce que c'est purement intellectuel dans le principe, mais aucune réalité opérationnelle derrière. Donc, voilà, c'était l'idée, c'était de tester, et de tester avec un certain nombre d'écoles partenaires. Donc il y avait 9 écoles partenaires de mémoire, et de tester ça sur effectivement sur les 15 jours de l'exercice, de tester ça sur 4 jours, à la fois sur Paris et à la fois sur Rennes.
Alors, vous avez eu combien de personnes, combien de réservistes et ils ont fait quoi en fait? Parce que ce que j'ai vu à la télé, moi j'ai, enfin, tu sais, ce fameux reportage sur France 3 Océan, je crois. Bon, en fait, avec
J'ai
quelques
pas vu celui-là.
étudiants. Tu l'as pas vu celui-là?
T'as
Non,
accepté
j'ai pas
pour
eu.
France 3 Océan, toi, c'est...
France 3 Bretagne.
Ouais.
Et en Suisse, forcément, la mer, ils ont la télé, quoi. Même
Ah,
s'ils
mais
voient les mers de temps en temps.
tu rigoles, mais c'est vachement dur d'avoir le replay en Suisse. Hein. Je crois qu'il y a une restriction géographique et tu peux pas regarder le replay si t'as pas une IP française. Donc. Enfin bon, passons. This TV is not available in your country. Mais donc en fait, on voyait. Bah, j'imagine que les images étaient sélectionnées scrupuleusement, mais on voyait deux trois étudiants dans une salle qui, en gros, dépaquaient de l'UPI.
Ouais, les images ont été un peu sélectionnées, peut-être. Non, mais le principe, c'est voilà, tu avais un scénario assez classique, on va dire, une suspicion d'intrusion sur un périmètre. Donc là, c'était une entreprise. Parce que, en fait, faut voir aussi sur quoi pourrait être employée cette réserve. Aujourd'hui, le ministère de la Défense a ses propres moyens et ses réservistes opérationnels, entre autres. Mais effectivement, l'ANSSI a ses moyens. Les entreprises, son secteur privé, ont aussi une capacité, même via la sous-traitance. Mais voilà, en cas de crise, il y a quand même tout un pan qui serait peut-être sans soutien, qui n'aurait pas cette capacité-là. Il n'y a pas que les OIV, il n'y a pas que l'organe de l'État, il y a aussi tout le reste de l'écosystème des entreprises. Et voilà, qui va venir, comme j'ai toujours un peu dans l'exemple à côté d'Epita, qui va venir aider finalement l'hôpital de Kremlin-Bicêtre, s'il y avait un problème, ça reste quelque chose qui est important, c'est pas forcément un OIV. Donc voilà, comment trouver cet appui. Et donc l'idée, c'est de se dire, voilà, pour des systèmes d'information plus modestes, probablement, pour des choses qui ne sont pas forcément d'importance vitale, comme on peut l'entendre, bah voilà, d'avoir un appui de détection, d'appliquer des procédures qui seraient peut-être centrales et voilà, de jouer un peu un scénario d'agression un peu massif et puis de remettre un peu une situation à l'état normal. Donc, en général, il y avait un scénario, quelques pistes. À partir de là, tu avais un mini-système d'information virtuel. Tout ce qu'il faut, hein, système des serveurs web, des bases de données, etc. Et puis, fallait commencer à tirer la plotte de l'exercice en trouvant effectivement des éléments de compromission, évidemment des choses qui avaient été injectées, des vulnérabilités qui avaient été exploitées, des comptes qui avaient été utilisés, et puis essayer de reconstruire quel avait été l'impact. Enfin, je vais dire notre quotidien à tous ceux qui sont en ligne, quoi, mais reconstruire l'impact, s'assurer qu'on a trouvé l'exhaustivité des éléments compromis, et voir préparer une opération de nettoyage derrière et de reconstruction. Quoi.
Mais tout ça, c'est fait comment vous les laissez se débrouiller, et puis il y a des assistants de TP qui passent dans les couloirs, ou
il y a des... Non, mais il y a une... bah, dans la salle, si tu veux, tu as effectivement du matériel informatique avec un mini-système d'information qui était complètement virtualisé. Et après, les profs sont là aussi pour faire un peu l'encadrement, l'appui technique. Et puis après, tu avais un réserviste qui était là, opérationnel, qui faisait le lien, enfin l'officier de liaison, quoi, entre derrière les organes du ministère de la Défense, type Calid, et le petit groupe d'intervention réserviste qui intervenait, quoi. Donc tu testais la chaîne de liaison, tu testais la capacité d'un groupe à essayer de résoudre ce problème, éventuellement d'appliquer des procédures centrales, et peut-être remonter des éléments d'échantillon, et puis d'essayer de réparer le système, quoi.
Alors moi j'ai deux questions. Est-ce qu'il y avait des gens qu'on connaissait, et est-ce qu'ils ont été bons globalement?
Il y avait des gens qu'on connaissait. Je ne saurais pas répondre à la question de « on connaissait ». Mais je pense que oui, toutes les écoles ont bien participé. Alors le débrief n'a pas encore eu lieu, donc ça serait, je ne sais pas forcément aujourd'hui tous les éléments de tous les débriefs communicables, mais voilà, le débrief il y a eu cette semaine, donc c'est tout bientôt. Mais voilà, ouais, donc je pense qu'il y a en tout cas à chaud, tout le monde avait participé, il y avait plein de choses qui étaient positives, il y a bien sûr des choses à améliorer, mais...
Parmi les réservistes citoyens non étudiants, il y avait qui avec toi, Sébastien?
Moi j'étais sur Paris, donc c'était sur l'école militaire, donc il n'y avait pas forcément des gens que vous connaissiez, hein, pour le coup, hein. Mais voilà, on avait un réserviste opérationnel qui faisait le lien, et puis quelques éléments de support. Type DGA, voilà, pour la partie soutien technique.
Alors, il faut préciser en fait que l'exercice a eu lieu sur différents sites. Est-ce que le scénario était le même sur tous les sites, ou il était différent à chaque fois?
Ah, ça, c'est une bonne question. Non, il n'était pas tout à fait le même sur tous les sites. Il y avait un scénario qui était le même pour Paris, et il y avait d'autres types de scénarios pour la partie Bretagne. Parce qu'effectivement, on a voulu tester a priori quelques sujets un peu différents, quoi. On voulait voir un peu comment ça réagissait sur différents. Il y avait un qui était plus reverse, l'autre qui était plus une compromission classique. Donc voilà, c'était un peu différent.
Et concrètement, j'ai toujours du mal à voir ce que faisaient les gens. Enfin, je veux dire, est-ce que tu leur demandais de venir avec un CD Kali, ou est-ce que la machine était fournie sur place?
Non, c'était les mains dans les poches, tout était fourni, sans internet même d'ailleurs, pour les premiers jours. Ce qui n'est pas évident pour faire du reverse, je cache pas. Et voilà, et donc à partir de là, tu as des comptes d'accès sur des systèmes, tu as un début de piste qui était assez évident, et puis bah, après tu tires la pelote en disant voilà, un truc bizarre, j'essaie de comprendre ce qui s'est passé sur le serveur, dans les logs, s'il n'y a pas des backdoors, des trucs qui ont été injectés, s'il y a fait une propagation latérale, une propagation verticale, enfin, après c'est tout le truc,
je dirais, oui, mais genre
classique, mais
voilà, et tu par tires exemple, la pelote, quoi. Tu dis qu'il y a du reverse, mais par exemple, qui fournit les... Enfin, il y avait des licences IDA, des trucs comme ça, ou...
Non, et pas forcément besoin, parce que, voilà, là, en l'occurrence, c'était des choses qui étaient plutôt scriptées, donc t'as pas forcément d'avoir une artillerie en termes d'outillage, pour arriver à comprendre qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a été obfusqué, et puis essayer d'effectivement retrouver le code initial, quoi.
Mais si demain, par exemple, il y a un PET à l'hôpital du Tremblay-en-Bicêtre, comme tu dis, c'est quoi la procédure? Les gens, ils sont censés y aller les mains dans les poches et attendre qu'on leur donne des PC là-bas, ou il y a une sorte de kit d'intervention
Alors, ça fait partie des choses qui font encore bien, bien affiner sur la partie mobilisation, je dirais, et de l'autre côté, couple d'intervention. Il y a encore beaucoup de questions qui se travaillent. Hein. C'est pas marqué dans le marbre encore, loin de là. Mais oui, il y a des idées effectivement de choses autour de comment pourrait fonctionner la notion de capacité d'intervention, parce que c'est pas forcément une obligation non plus pour la personne d'avoir cet appui. Donc voilà, il y a des aspects un peu contractuels à mettre en place en amont, parce que comme toute réserve, quelque part, faut... Enfin, moi j'imagine aujourd'hui, je vois bien qu'il y a encore des points où il y a des choses un peu à réfléchir en termes de prépositionnement, et pas... c'est pas juste de dire, voilà, on a créé un texte de loi, une réserve, et puis ça va se mettre en route tout seul derrière, donc il y a encore plein de choses à faire derrière. Mais l'idée, c'est, voilà, c'est d'avoir effectivement des points un peu... où il y aurait des gens qui seraient capables de se rassembler, qui seraient effectivement activables, et la logistique est un vrai sujet. La logistique est un vrai sujet encore à traiter.
Et surtout que tu imagines bien que si tu dois venir avec une machine, si ouais. Elle est restée dans un placard, enfin c'est pas comme un fusil, quoi, tu vois, tu le laisses dans un râteau. Mais
ça, c'est parce que t'es en Suisse qu'ils ont des fusils dans les placards.
Ils s'en sortent, ils sont bien vidés, peut-être.
Mais voilà, mais non, aujourd'hui. Je pense oui, il y a encore beaucoup de questions qui ne sont pas forcément encore aujourd'hui complètement arbitrées sur cette partie-là. Mais le but, c'est pas forcément non plus d'amener du matériel. C'est peut-être aussi de se dire, bah voilà, peut-être des choses à prépositionner en amont aussi sur la personne si elle a besoin d'assistance. Enfin, il y a plein de manières d'y réfléchir au sujet. Voilà, mais c'est pas forcément encore ça bien calé. Quoi.
Alors, si c'est public,
ma connaissance en tout cas.
Question avec réponse, si c'est public ou pas. Il y a combien de temps de réaction prévu pour la mise en place de ces forces d'intervention?
Je crois pas que ça soit diffusé, ce genre d'information.
C'est de l'ordre de l'heure, de la journée, de la semaine ou du mois. Enfin, tu vois, quand la guerre de 14 a démarré, il y a eu des affiches dans les campagnes, les gens étaient en train de moissonner, etc. Ils ont fini les moissons, ils ont pris le train pour la Paris. Enfin, un mois après, les gens commençaient à s'assembler, quoi.
Je comprends bien la question. Après, voilà, je pense que la réserve opérationnelle a un statut qui est aussi assez contraignant, la réserve opérationnelle en tant que telle aujourd'hui. Elle a un statut qui est assez contraignant parce qu'il y a cette notion de, justement, de mobilisation, d'urgence quelque part et d'obligation de réaction et autres. Sur ce type de réserve, il y aurait effectivement une réflexion à avoir. Il y a une réflexion là-dessus sur le statut, parce que c'est pour ça qu'il faut créer un autre statut. Parce que le bénévole de service public, finalement, il n'y a pas une obligation particulière et il n'est pas, tel qu'il est défini aujourd'hui pour la RCC, il n'est pas utilisable pour une partie opérationnelle. Et à l'inverse, la réserve opérationnelle est peut-être aujourd'hui un cadre qui n'est pas du tout adapté pour cette partie cyberdéfense pour plein de raisons, parce que déjà, l'entraînement militaire n'est pas forcément pur, n'est pas forcément. L'entraînement aux armes n'a pas besoin, quoi, pour faire de la cyber, je vais faire court. Donc voilà, il faut un statut un peu plus souple, et donc ça fait partie des éléments qui sont encore à définir sur ce statut. Je ne vais pas forcément être plus précis aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont encore dans les discussions, et je ne suis pas forcément dedans non plus, donc j'ai pas forcément d'éléments précis là-dessus, mais c'est sûr que ça serait pas, à mon avis, je ne vois pas ça une mobilisation dans l'heure. Par rapport à d'autres trucs, et l'idée c'est pas non plus de l'activer, je pense, en des semaines, parce qu'on sait bien que le temps de réaction en informatique il est pas, il peut pas être aussi long que ça. Donc ça sera forcément un milieu acceptable à tout ça.
Mais alors, juste, j'ai peut-être pas bien compris, mais qui compose cette réserve cyber? C'est des étudiants et des militaires? Ou il y a aussi des professionnels
Alors aujourd'hui, c'est dans l'idée, hein, encore une fois, hein, c'est effectivement, il y a une partie structurée, parce qu'il faut la gérer quand même, cette réserve, il y a des aspects de gestion, d'encadrement, et donc là, effectivement, tu as des parties militaires et réservistes, et puis tu as des parties où, effectivement, tu auras la vraie capacité opérationnelle, quelque part, ça sera effectivement d'aller chercher des gens qui sont disponibles, et les plus probables aujourd'hui, là où il y a un vrai vivier en volume, effectivement, il est plutôt dans les populations étudiantes. Dans ma connaissance, il n'y a rien qui ferme, loin de là, pour qu'un professionnel puisse y participer, mais s'il y avait une crise cyber, des profils comme vous tous en ligne, là, vous êtes déjà plutôt des experts qui seraient clairement phagocytés par le marché, quoi.
Ouais, parce que le problème des étudiants, c'est que, bon, enfin, je sais que les études s'allongent, mais enfin, reste pas étudiant toute sa vie, tu vois, ta réserve, tu l'as fait.
Oui, tu as tout à fait raison. Ça, c'est un des sujets de gestion des ressources, et même sur les étudiants, il y a plein de problématiques, comme le fait de dire, ben, un étudiant, si tu le prends, je sais pas, s'ils ont commencé son cursus en septembre et qu'il finit au mois de juin, ben, en septembre, c'est un vrai débutant, au mois de juin, il est un peu plus formé, donc il vaut mieux que la crise, elle arrive au mois de juin qu'au mois de septembre, quelque part. Ouais, il y a cette problématique-là. Il y a la problématique, les étudiants, entre le mois de juillet et le mois d'août, ils sont peut-être probablement pas à côté de leur école, ils sont plutôt dans leur famille, probablement à l'autre bout de la France. Comment tu gères le 25 décembre, le 1er janvier, le 1er mai, etc., etc. Donc, il y a effectivement, c'est pas une capacité où il en faudra probablement plus que ce qu'on pourrait avoir en opérationnel sur le terrain, c'est évident. Mais voilà, ça reste un appui qui reste important, je pense, aujourd'hui et manquant dans le chaînon, globalement dans l'écosystème, quoi. On voit bien les professionnels, notre marché est déjà tendu. On a tous du mal à recruter, personne n'est vraiment qu'attend sur le marché, ou alors c'est que c'est inquiétant pour lui en termes de compétences. Et donc voilà, donc où trouver des ressources, quoi. À un moment donné, il faut bien des gens qui font, des gens qui ont un minimum de formation et qui sont prêts à dérouler des procédures, qui sont prêts à aussi trouver éventuellement des trucs qu'on n'aurait pas été vus en centrale. Voilà, je pense qu'il y a un vrai travail de disponible et massif en cas de crise, quoi.
Et d'après toi, est-ce que ce genre d'exercice est transposable pour des entreprises moyennes? Enfin, je veux dire, est-ce qu'on peut tirer de ça un enseignement qu'on pourrait diffuser dans les entreprises de moyenne importance, de manière à améliorer leur cyber résilience?
Je pense que ça, c'est une très bonne question. Et moi, en tout cas, le retour que je m'en fais personnellement, c'est que finalement, il n'a pas fallu de si gros moyens pour monter un cyber exercice, un vrai cyber exercice. Et pas juste faire tourner une procédure de crise, comme on peut le voir pas, je dirais, dans pas mal de comptes. Hein. Voilà, c'est monter une mini plateforme qui se fait compromettre et vous dites aux informaticiens, bah vas-y, essaie d'en tirer quelque chose, et on va essayer de gérer la crise, on va essayer de gérer la com, on va essayer de gérer, faire une synthèse, une main courante, enfin tout ce qu'il y a à faire dans une gestion de crise. Je pense pas qu'effectivement ça demande des moyens démesurés et que ça permettrait de former à la fois, on va dire par la pratique et commencer à entraîner les gens de manière assez efficace. Ouais, je pense que c'est un vrai truc à développer, ça c'est évident.
Et ta plateforme elle est représentative de la vraie vie, enfin, je veux dire c'est de l'Active Directory, des postes clients sous Windows avec 50 000 soft installés, etc. Ou... Parce que le problème des CTF souvent c'est que c'est du FreeBSD, des trucs comme ça, et quand tu veux commencer à jouer avec des logiciels commerciaux, bah, t'as un problème de licence, quoi.
C'est pas faux, et ça c'est même le vrai sujet. Je suis complètement face avec toi, on avait d'ailleurs discuté pour les challenges du FIC qu'on avait développé, c'est exactement le sujet qu'on a, hein. C'est mettre une snapshot de Face System ou installer des produits commerciaux, ça se prête pas du tout à des cadres d'exercice et des jeux divers et variés. Donc oui, c'est vrai que c'est souvent ça va tourner sur du libre, néanmoins, enfin quand on regarde aussi de l'autre côté, pour s'entraîner, se faire la main... que ton site web, ton CMS, ton WordPress, ton outil quelconque, Webizé par exemple, quand on prend les campagnes Dialys du mois de janvier, je veux dire que ouais, il tourne sous Linux ou Windows, ça va pas changer grand chose et ça va déjà te permettre de mettre en place toute une mécanique, une logique, un minimum d'entraînement. Je pense pour des équipes qui est bien suffisante. Enfin voilà quoi, le malware Windows c'est une chose, mais je pense pas qu'on a tous besoin de faire du reverse de malware Windows dans un premier temps, quoi. Il y a peut-être déjà pas mal de cas simples à traiter.
Mais je suis surpris qu'avec le nom DevNet, ça ne soit pas sous Windows, parce que quand on a Windows, on a DevNet.
Je garderai celle-là.
Je pensais que tu avais parlé du fait que tout le ministère de la Défense était sous Windows, pas sous des technologies
Microsoft. Bah oui, tout à fait, je parlais de l'essence globale aussi, implicitement, là, derrière, l'essence globale de Microsoft de... pour le ministère de la Défense. C'est surprenant que pour DevNet, ils n'aient pas réussi à mobiliser un peu la licence globale.
J'en sais rien s'ils ont essayé ou pas. En tout cas, là, pour le coup, j'en sais rien, franchement. Mais c'est vrai que globalement, si vous voulez monter demain, ne serait-ce que comme tu disais tout à l'heure, hein, Nicolas, hein, un exercice de juste, même simplement de faire ça, un capture the flag version, je dirais, version gestion de crise dans une quelconque conf de sécurité, on se heurte tout de suite à des problèmes de licensing, ça c'est clair. Et bon, je pense pas que c'était trop le sujet là pour l'exercice, mais ça suffit largement la plupart du temps, pas forcément d'avoir du Windows en gros, ou de l'Oracle, ou je sais pas quoi comme produit classique. On peut très bien faire ça avec des trucs assez simples et déjà mettre le pied à l'étrier sur beaucoup de trucs, quoi.
Mais justement, là-dessus, une question que je me posais, c'est DevNet par rapport à d'autres CTF, à d'autres challenges, il y avait des différences ou finalement c'était à peu près la même chose, sauf que derrière, il y avait une optique observation entre guillemets, si j'ai bien compris, de la part de la réserve opérationnelle cyberdéfense. Enfin,
t'avais plusieurs choses. C'est pas, enfin, d'abord, c'est pas vraiment un jeu, hein. C'était quand même quelque chose d'un peu sérieux, mais sur le plan purement défi technique, on est assez proche de ce qu'on pourrait trouver effectivement dans le principe d'une compétition de sécurité classique. Bon, sauf que là, tu cherches pas des vulnérabilités, tu cherches des cas exploités, mais voilà, t'es assez proche du principe. Après, voilà, là, en l'occurrence, oui, bien sûr, il y avait une idée d'observer, de voir comment ça marche, de voir les capacités, de tester la chaîne de coordination. Enfin, dans un exercice, on teste beaucoup plus de choses que simplement le simple fait de dire il y avait un scénario technique, vous avez résolu le scénario technique.
Ok, et justement aussi, parce que tout à l'heure, tu disais qu'il y avait, bon, les étudiants, notamment participants étudiants, et puis il y avait des profs qui étaient cachés derrière. Mais je me demandais, qu'est-ce que c'était l'impact que pouvaient avoir les enseignants, justement, dans ce contexte-là, s'il y en avait, si j'ai bien compris.
Bah, cachés derrière, pas partout, je pense.
Ou pas ça, toujours.
je pense que le prof a un vrai intérêt de guider les étudiants. C'est quand même quelque part un grand TP, la grandeur nature, intéressant. Donc, ça permet de les guider. Enfin, voilà, moi je vois il y avait des technologies qu'ils connaissaient pas forcément. Bah, ça permet de les guider un peu, leur expliquer, leur dire, tu vas plutôt aborder comme ça le sujet. Un étudiant il a pas forcément vu toutes les technos non plus, il a peut-être pas forcément non plus beaucoup d'expérience sur le sujet, donc loin de là souvent d'ailleurs. Donc l'idée c'est de mettre le pied à l'étrier, c'est de les aider, les orienter, leur expliquer s'ils l'ont jamais vu. Après ça peut des fois être des fausses pistes aussi, hein, mais. Je sais pas, moi, quand il y a une base de données, c'est pas forcément le réflexe d'un étudiant de se dire je vais faire un dump SQL, vérifier qu'il n'y a pas une recompromission par les données SQL du système. Enfin, il y a des choses comme ça, voilà, c'est pas forcément dans leur réflexe. C'est peut-être qu'un professionnel qui, 15 fois, il va dire pense à faire ce point de contrôle-là pour être sûr que tu travailles sur un système compromis ou pas, ou qui sera peut-être pas compromis après. Enfin, voilà, là, je voudrais juste rajouter un truc, c'est que les profs font aussi partie de l'idée de la cible potentielle des gens qu'on pourrait avoir dans cette réserve. C'est comme quelque part encadrement. Donc il y a aussi cette volonté de. Il n'y a pas que l'étudiant en tant que tel. Hein. C'est aussi un vrai intérêt d'avoir derrière quelque part les populations enseignantes. Hein. Maintenant, faire le retour entre ceux où les anciens ne sont pas d'enseignants, pour le coup, là, je ne sais pas. Il faudrait faire le débrief et après, je ne sais pas ce qu'on communiquera. Donc voilà.
Ok, je note. J'espérais savoir, pourtant.
Mais juste, tiens, une question à la con. Les étudiants, ils travaillaient ensemble ou ils travaillaient les uns contre les autres? En gros, est-ce que toutes les équipes travaillaient en parallèle sur le même problème? Ou est-ce que, quand il y a une sorte de note à la fin...
Alors, là, le but, c'est quand même de jouer en équipe. Donc, même s'ils avaient... ils avaient mis deux par PC... ce qui concerne ma salle pour des questions logistiques, ils étaient peut-être deux par PC, mais en fait ils n'étaient pas en binôme les uns contre les autres. Hein. Ils travaillaient en parallèle, chacun sur une plateforme différente. C'était la même technologie, exactement la même snapshot quelque part qui était répliquée, mais ils ne se marchaient pas dessus sur les plateformes. Donc ils étaient vraiment en parallèle, et l'idée, en tout cas, moi, qui m'a concerné pour ma salle, c'était quand même plutôt de faire quelque chose de coopératif. Donc, il y en a qui trouvaient un IOC quelconque, une IP, un compte, un nom de fichier, un script, j'en sais rien, c'est de le passer aux autres pour qu'on aille plus vite dans l'investigation et qu'on gagne du temps. Donc, c'était plutôt quelque chose de coopératif entre les différentes petites équipes dans la même salle. Sur l'exercice, il n'y avait pas de coordination intersalle. Ça peut être une question par rapport au test, s'il n'y a pas de correction.
Ouais, j'ai demandé, est-ce qu'il y avait des outils de collaboration prévus pour arriver à synchroniser la réponse à l'échelle de la France?
En tout cas, pas au niveau du groupe, d'un groupe. Maintenant, on a effectivement fait des synthèses, donc ça a remonté en haut, j'imagine.
Mais qui a préparé tous ces exercices, ouais, qui les a testés, qui a snapshoté les VM
Il y a eu un travail qui a été fait, piloté par l'EMA avec la DGA, et puis il y a eu un sous-traitant qui a travaillé dessus. Ouais.
Ok, c'est un sous-traitant qui a travaillé dessus.
Je pense qu'on peut le citer, ou pas, je sais pas.
Ah, c'est pas à moi de le faire, ça.
je l'ai cité sur mon blog, donc je pense que je peux le citer.
Ah, si t'as cité quelque chose sur ton blog, engage-toi, j'en sais rien.
Et je l'ai fait relire par des gens qui connaissent. Donc.
Parce que toi aussi, t'as participé activement à cet épisode ?
Non, non, moi j'étais que en simple observateur. Donc j'ai été invité en tant que, on va dire... réservé citoyen, mais aussi blogueur, on va dire, pour faire un petit retour sur DevNet. Donc, j'ai juste assisté à une après-midi où c'était le jeudi, donc c'était avec Télécom Paris, donc pas avec les étudiants d'EPITA. Donc, c'était la deuxième école parisienne. Et donc, j'ai assisté une après-midi les étudiants qui essayaient de retrouver les éléments de compromission.
Et alors, c'est quoi ton ressenti? C'est que...
J'ai pu avoir un peu le ressenti aussi du réserviste opérationnel qui coordonnait l'exercice et qui avait vu les différentes équipes. Donc c'est vrai qu'elle m'a expliqué que selon les différentes équipes et écoles, les méthodes d'approche étaient différentes. Plus ou moins rapides, plus ou moins risquées. Genre une école a fait plutôt une sauvegarde complète avant de commencer l'investigation numérique, d'autres sont partis directement le plus rapidement possible, donc des approches différentes, mais au final, tout le monde a à peu près retrouvé tous les éléments de compromission.
Ça me fait penser, mais est-ce qu'il y a un guide d'hygiène qui est prévu pour les interventions ?
Mieux que ça, il y a un label des prestataires de réponse à l'incident. Donc...
Ouais, c'est ça autre chose. Ça.
Après, de ce que j'ai compris, c'est que, tout ce qu'on a dit Sébastien, tout ce qui est procédure, c'était aussi le but de l'exercice, de pouvoir ensuite formaliser des procédures opérationnelles d'intervention sur site, ce qui n'existe pas encore pour coordonner ça avec les étudiants, les professeurs et puis les réservistes opérationnels qui participeront en cas de cybercrise majeure.
Et c'est fou parce qu'à t'entendre, en fait, j'ai l'impression que les procédures sont écrites en regardant les étudiants travailler plutôt que l'inverse, mais bon.
Ouais, la procédure théorique, c'est une chose, je pense qu'il y a un peu des deux quand même, c'est-à-dire qu'il y a des choses sur lesquelles on voit bien, il va falloir expliquer un petit peu plus, être plus formalisé, plus précis, et puis puisqu'on avait des éléments de procédure déjà qui étaient prévus. Mais il y a des choses peut-être qu'il faut renforcer, ça fait partie des améliorations, je pense qu'on va tous débriefer bientôt, et puis voilà, donc il faut compléter, mais tout comme procédure, sur ce genre de cas, la procédure unique de gestion incident de crise, si elle existait, ça va bien, ça simplifiera mon quotidien.
Mais après de ce que... Oui.
Non, vas-y, Nico.
En fait, après, de ce que j'ai vu, c'est qu'ils avaient aussi un petit manuel avec des petites fiches de bonnes pratiques en termes de réponse à incident en cas de attaque des DDoS, compromission d'un CMS. Donc, il y avait quelques indices et des noms d'outils à utiliser pour aller chercher dans les logs, faire des exports, faire des choses comme ça. Donc, il y avait un peu de. Ils avaient un petit guide de réponse à incident, on va dire.
Et j'ai juste un truc justement sur les procédures. Encore une fois, il y aura un vrai débrief au vif plus tard, mais finalement, de l'expérience personnelle, quand je suis typé des gens à des CTF et des choses comme ça, même si c'était pas un CTF, une grosse partie du boulot, en fait, c'est sur. C'est qu'une grosse partie de la réussite tient aussi à une bonne coordination des gens. Donc, on peut avoir des gens qui sont super doués, mais si la coordination est pas bonne, ça se passe pas bien du tout. On a 14 personnes dans 14 coins différents. C'est un peu le sentiment que vous avez eu aussi, pas trop
En tout cas, d'expérience, je confirme complètement ce que tu dis, la coordination c'est clé. Mieux vaut une équipe qui soit pas des brutes en forensique mais complètement coordonnée que chacun qui part dans son coin en mode cow-boy. Donc là, je dirais déjà d'expérience, je soutiens complètement le truc et l'exercice, pour ça, je disais le but c'était pas que de tester. Pour moi, c'était pas forcément. En tout cas, moi, je le vois pas comme ça. Hein. C'est pas forcément le but de tester un genre d'exercice la compétence forensique individuelle des gens. C'est pas le but, quoi. Donc, donc oui, l'effort de coordination, l'effort de, je pense, de travail en équipe, voilà. Puis déjà de d'étalonner un peu, de dire voilà, est-ce qu'un niveau de difficulté de ce type-là, qui est probablement un scénario très classique, est-ce que pour sauver une compagnie, est-ce que finalement c'est un truc qui est jouable, ou c'était déjà peut-être, si on fait des tests sur 9 écoles, quelque chose de complètement, complètement délirant, inatteignable. Donc, c'est aussi un petit peu ça, quand même, l'idée derrière aussi de tester. Donc,
oui, je, je vais tomber dans le troll, mais sauver une compagnie en donnant le mot de passe à des étudiants, j'ai vraiment peur sur le côté formation, quoi.
Ouais, non, c'est peut-être pas ça non plus. Il faut quand même donner, t'as un temps limité, on commençait le matin, il devait être 9h, on devait finir le soir vers 18h. L'idée, c'est que le scénario tienne sur la journée. Voilà, après, t'as des éléments pour accélérer le truc un petit peu quand même.
Non, mais ce que je veux dire, en termes de... Est-ce qu'il y a une formation qui est prévue pour les étudiants, pour leur apprendre les règles, pour qu'ils intègrent bien le manuel? Parce que j'imagine les étudiants qui n'ont pas forcément une grosse connaissance des systèmes d'information, qui se retrouvent bombardés dans un gros truc, avec un gros stress, parce qu'il y a vraiment une attaque, comment ils ont intérêt à avoir des réflexes?
Oui, tu as raison, enfin oui, bien sûr. Il y a, dans l'idée, il y a un certain nombre de démarches qui sont en cours déjà aujourd'hui dans les formations, une initiative de l'ANSI qui s'appelle Cyberédu, qui est déjà un premier volet, et puis on voit bien, quand on a réfléchi au concept sur la partie ACVR-CVO, qu'il fallait peut-être compléter, parce que Cyberédu et même globalement la formation en informatique en France, que ça c'était un des points que j'avais relevé dans le rapport il y a 3 ans, c'est que les formations d'informatique, il n'y a rien de catalogué aujourd'hui. Vous faites une école A, une école B, vous faites un bac plus 2 à un endroit et à un autre, vous avez des cursus qui sont très différents, il n'y a rien de normalisé. Il n'y a que, on va dire, le ratio, les ratios entre technique et non technique qui sont un peu rationalisés. Donc du coup, c'est vrai qu'il manque un bagage un peu commun, un minimum de cybersécurité, c'est un peu l'idée de la cyberédu. Et puis après, il y a un peu cette spécialisation par rapport à là, et qui serait un complément d'entraînement, parce que le but c'est pas non plus de se dire j'ai une réserve, je pense, et je l'active le jour où j'ai une crise, comme tout pompier, il faut bien qu'ils s'entraînent un petit peu de temps en temps quand même. Donc il y a la notion d'entraînement qui va être important, et pourquoi pas par des cours, pourquoi pas par des choses. Je pense que là il y a effectivement des choses à monter, ouais, c'est évident.
De toute façon, c'est la mise en situation, c'est là où on progresse le plus, et je pense que justement ça c'est un bon exercice de mise en situation.
Ouais, il faut la mise en situation, mais comme c'était dit juste avant, faut aussi un peu de théorie et de cas pratique, encadré, on va dire, sans le stress, sans tout le reste, quoi. Donc c'est là où forcément il faudra un peu d'accompagnement. Et oui, c'est des choses sur lesquelles on réfléchit déjà, à se dire voilà, au-delà de se dire il y a une convention qui est signée, forcément peut-être un peu de formation et d'éléments à mettre en place, quoi.
Enfin, la gestion du stress, c'est encore un domaine à part entière, hein. Je veux dire.
Ouais, mais sans la gestion du stress, mais juste les bons trucs de base, sur Windows, sur Linux, sur je sais pas quoi, une capture réseau, enfin les trucs de base, quoi. Il y a quelques éléments, ça fait pas partie de tous les cursus, loin de là, en Bac plus 2, Bac plus 3, Bac plus 4, Bac plus 5. Il y en a qui n'ont jamais touché un de ces systèmes-là pendant leur formation, donc il y a un minimum à mettre en place. Si on veut compter sur cette réserve, évidemment.
Ouais, du coup, moi, j'avais une question, parce que tu parlais d'un point qui est quand même, pour moi, assez primordial. Tu as dit que le but, c'était de tester la chaîne globale d'alerte et de réponse à crise. Et donc, comment vous avez simulé ou mis en œuvre l'aspect technique, donc des groupes d'intervention techniques face à des VM ou face à des scénarios, ouais. Et la cellule... de décision, puisqu'on sait tous que c'est pas l'ingénieur technique forensique qui coupe le site web ou qui coupe voilà, donc il y avait un canal de communication parallèle, une cellule de gestion de crise qui disait bah oui,
il y avait des cellules, et c'est là tout l'intérêt du,
voilà, ça c'est intéressant,
du réserviste opérationnel qui est là et qui peut remonter des choses et faire des points de situation et remonter, voilà, si cas typique, je sais pas moi, un groupe qui trouve, l'idée c'est ça quand même derrière, terme, c'est il y a un groupe qui trouve un IOC qui n'a pas été connu globalement, il faut remonter vers le site liaison, et à l'inverse, s'il y a une procédure appliquée sur tous les systèmes parce qu'il y a un IOC qui est détruit par un autre groupe ou en centrale, et qu'il y a une procédure à dérouler sur tous les systèmes pour le rendre sain, il faut dérouler la procédure, donc ça marche dans les deux sens, quoi. C'est vrai que là, sur l'exercice, on n'a pas, je pense, pas beaucoup testé, parce que peut-être aussi la configuration de l'exercice faisait que c'était sur 4 jours. Finalement un scénario qui est remis à zéro chaque jour sur un temps qui est quand même relativement court, il n'y a pas de problématique de passage de consignes par exemple entre entre un groupe sur, entre deux groupes sur plusieurs jours. T'as pas les problématiques de relais, de passage aux consignes. Donc t'as certains éléments de crise comme ça qui sollicitent fortement des décisionnels en général, qui n'étaient pas forcément joués pour ces groupes-là.
Clairement, en tout cas, il y a un aspect technique effectivement qui est important à prendre en compte, mais il y a toute la partie décisionnelle, c'est-à-dire rétro-feedback sur bon voilà, on a trouvé ça, qu'est-ce qu'on fait chef, machin, et toute la chaîne qui se déroule derrière. Donc ça, ça c'est assez important quand même. Enfin, je veux dire,
Ah, mais je pense qu'il y a plein de choses encore, mais c'est déjà, enfin, quand on regarde aussi ce qui se fait par ailleurs, déjà une progression forte, hein, un premier exercice en octobre, qui était déjà sur un périmètre limité, mais déjà pas mal. Là, on passe sur quelque chose qui est déjà démultiplié, multisite. Enfin voilà, il y avait une vraie complexité de progression en l'espace de 6 mois quand même. Hein.
Qu'est-ce que tu veux dire par les exercices c'était réinitialisés chaque jour, c'est-à-dire que chaque matin en fait ils arrivaient, ils avaient des trucs différents à faire?
Bah, non, c'est des VM, c'était le même scénario, mais les VM étaient remis à neuf.
Oui, mais je veux dire c'était les mêmes scénario. Élèves qui travaillaient sur. Bah,
non. Non, c'était des élèves différents.
D'accord.
Okay. Moi j'avais par exemple du lundi au mercredi, j'avais 3 groupes de 15 personnes différentes. Donc au total j'ai 45 étudiants qui sont intervenus sur l'exercice. 3 groupes de 15 qui ont joué chacun de manière unitaire les 3 jours avec des jeux de VM qui étaient le même scénario mais des VM refaites à neuf pendant la nuit, quoi.
Et je suppose que le débrief officiel viendra par les canaux officiels, mais par contre les étudiants eux qu'est-ce qu'ils en ont dit?
Ils ont adoré, enfin très sérieux, très, très franchement le retour que j'ai eu sur les cours, ils ont trouvé ça déjà une vraie mise en situation pratique pour leurs cours, parce que ça reste quand même des populations qui adorent ça, donc il y a le côté un peu challenge, hein, donc voilà, il y avait une vraie application pratique, quelque chose qui donnait du sens à la formation, un vrai cas concret pour eux. Deuxième point, c'est que c'était quand même assez valorisant pour eux, tous me l'ont dit, en tout cas, ouais, ils étaient contents d'avoir eu la chance de pouvoir y participer, et je trouve que c'était super pour eux d'avoir pu le jouer comme ça. Donc la valorisation, le donner du sens à la formation, et le troisième point, c'est que ça leur a montré un peu aussi la perspective de ce qui leur attend après. C'est-à-dire qu'ils pensent vraiment que voilà, il y a une vraie attente sur le sujet, il y a un vrai besoin, et que ce genre de sujet, voilà, faut les pratiquer pour être pertinent, quoi, parce que on s'improvise pas trop sur ce genre de sujet de gestion de crise, quoi.
Je suis bien d'accord.
Et ce ne serait pas une expérience qui serait généralisée sur l'ensemble des étudiants qui font un master sécurité? Je suis persuadé qu'il y a la moitié des master sécurité qui ne proposent pas ce genre de truc.
Justement, c'est pour ça que je dis que, vraiment pour rebondir sur la question des entreprises, ça s'applique aussi aux étudiants. Hein. On fait quelques rushs de ce type-là, qui sont soit des rushs de type RootMe ou Capture the Flag, ou des rushs plutôt d'infrastructures pour monter des infrastructures. C'est clair que là, moi, ça m'a donné des idées sur la manière de monter effectivement ces plateformes rapidement pour faire des tests. Et oui, clairement, je pense que moi, je vais rajouter des rushs maintenant de ce type-là pour les étudiants, clairement. Clairement, surtout que voilà, ça me donne des idées de comment les monter, ça m'a donné des idées de comment les monter, comment essayer d'industrialiser un peu le truc pour que ça soit en termes de logistique gérable, parce que quand même monter ce genre de scénario quand on est prof pour 40 étudiants, c'est quand même déjà énormément de boulot. Hein. Faut quand même voir ça.
Ouais, il faut un INESIM pour tous les masters.
Alors, du coup, je suis prêt à. Parce que bon, il y a une tradition. Je sais pas si ça lag et que ça me coupe, mais bon, tant pis, on s'en fout. Ça sera coupé par Johan au montage. Mais donc, nous, on a un centre de gestion de crise, donc à Vannes, à l'Université de Bretagne Sud, où donc il y a une formation par alternance d'ingénieurs en cyberdéfense en 3 ans. Et donc, il y a un bâtiment entier, donc on livre là dans 1 mois et demi. Il y a 3 salles, une salle d'animation du scénario, une salle de décision décisionnelle et une salle de 24 postes utilisateurs avec un mur d'image énorme avec 4 grands écrans. Et on joue des scénarios complet avec du Palo Alto, du Walix, du Checkpoint.
50 euros.
Pardon ?
50 euros.
Non, mais c'est rien, ça coûte rien quand tu fais des partenariats avec les éditeurs, ils sont super intéressés.
Je suis en train de comptabiliser, tu sais que c'est 10 euros par.
Oui, voilà, bon. Je ne pensais pas que je cite les éditeurs. Mais donc, on fait un scénario. de gestion de crise avec et donc voilà, donc s'il y a des gens qui sont intéressés, voilà. Moi, c'était juste mon truc à deux balles.
Non, je pense que voilà, mais c'est comme tu le soulignes quand même, ça demande effectivement pour des cursus, des infras, des formations. Quand tu regardes la plupart des formations en France, tu prends la liste des formations sur les sites de l'ANSSI, la plupart des formations vont former, la fourchette, ça va de 20 à 50 personnes par formation. Se payer une plateforme comme ça entre 20 et 50 personnes, voilà, t'as un coût économique qui est pas forcément réaliste aujourd'hui. Alors oui, pour certains masters qui ont peut-être effectivement une certaine visibilité ou qui ont des partenariats ou qui, grâce à des pactes, peuvent effectivement faire un certain nombre de choses, mais voilà, je pense que c'est pas forcément adapté aujourd'hui, surtout le maillage territorial on va former les 600 ou 700 ingénieurs par an en sécurité avec ce genre de plateforme, c'est ça le... Enfin, on n'a pas forcément aujourd'hui tous, je pense...
Mais d'accord, mais on parle quand même de des exercices officiels de l'état-major de gestion de crise du ministère de la Défense et qui associe les plus grandes écoles parisiennes.
Oui, mais la question initiale, c'était de généraliser ça dans les écoles et finalement pas forcément sous la partie état-major. Moi, je revenais sur la question au départ, c'était faut-il faire ça dans toutes les formations de cybersécurité? Oui, clairement, je pense qu'il faut essayer de monter ce genre de truc. Modulo, trouver une logistique adaptée à la taille de la formation. Toutes les formations n'ont pas 300 ou 400 étudiants sur le campus, quoi. Moi, je pense à des formations là, qui je discute, qui sont voilà, sur des un peu excentrées, notamment de la partie parisienne. Je les vois pas monter des plateformes de ce type-là, quoi. Mais c'est pourtant, clair, ouais. Ça serait nécessaire pour eux, je pense, d'avoir cette capacité de cours et de formation pour les étudiants, parce que c'est très formateur. Enfin, je veux dire, voilà, la sécurité, on fait des procédures et si on installe des produits, je pense que c'est une certaine limite aussi. Donc,
Moi, j'étais en train d'essayer de te dire qu'il fallait tout passer en cloud. C'est la meilleure solution. Je dois 10€, c'est ça?
Non, mais le cloud est un échec.
Attends, déflore pas le sujet du prochain podcast.
Quand les organes sont tombés par terre dans la neige...
Le prochain exercice, est-ce qu'il est planifié?
Pas à ma connaissance. Le
prochain DevNet?
Pas à ma connaissance pour moi.
Et toutes ces plateformes et ces feedbacks et machin, ce sera public ou ce sera, faudra faire partie du milieu pour accès?
Ça, je sais pas, il faudra poser la question pour le coup. Ouais, je pense qu'il y aura des feedbacks, il y aura des retours. De toute façon, c'est aussi des... Enfin, moi, je trouve qu'aujourd'hui, il y a quand même une belle transparence là-dessus du ministère de la Défense sur le sujet. Quand on voit le nombre d'articles qu'il y a eu, le nombre d'éléments un peu pédagogiques quand même pour expliquer l'intérêt, de montrer un peu les efforts, les types de problématiques, le fait d'inclure, ben là, typiquement, mine de rien, du personnel civil, étudiants qui n'ont pas vraiment un statut à la base. Hein. Il y a une convention qui est signée avec l'école, mais... Ça reste, il n'y a pas forcément un statut. Enfin, voilà, je trouve qu'il y a déjà une belle ouverture sur le sujet. Et à mon avis, il y aura des éléments de communication a posteriori, ouais, c'est sûr.
Oui, enfin, disons que la communication au ministère de la Défense, c'est surtout fait pour recruter des gens, je pense. Parce qu'il n'y a pas d'éléments techniques dans la communication. Hein. C'est, nous avons participé à l'exercice. Et d'ailleurs, de ce point de vue, j'avais une question. Les étudiants, ils sont désignés volontaires ou peuvent participer librement?
Ah non, c'est juste assez... Alors ça, c'est une très bonne question. C'était effectivement une participation sur leur choix. Et, tu vois, moi, en tant que prof, typiquement, je suis obligé de remonter un autre exercice de crise à côté pour pouvoir que ceux qui n'ont pas participé, parce qu'ils ne voulaient pas ou parce qu'ils ne pouvaient pas, puissent effectivement avoir un peu un équivalent en termes de cursus et de formation. Donc oui, non, c'était quelque chose qui était complètement bénévole, complètement sur volontariat, et qui permettait effectivement de participer à l'exercice, quoi.
Ouais, c'était toujours un point important de savoir si.
Non, si c'était pas volontaire. Pas de volontaire désigné, c'était bien du volontariat pur et voilà.
Et les élèves avaient une habilitation ou un contrôle élémentaire quelconque avant ou? Comment ils ont été?
Non. Enfin, juste classiquement, effectivement, la nationalité ou binationale, mais il n'y a pas de, rien d'autre.
Ouais, ça commence déjà à être un critère assez sélectif maintenant, parce que à l'époque où je donnais encore des formations dans les écoles, il me semblait, enfin surtout dans les masters au niveau bac plus 6, il me semblait qu'il y avait énormément d'étrangers. Et dès que tu demandes de l'argent à un Français pour avoir un diplôme, il dit les études c'est gratuit quoi. Il faut dire que t'as des masters qui sont à 10 000 euros l'année, donc tu commences à réfléchir avant de t'inscrire. Non, t'as pas eu t'as pas ce problème-là à l'EPITA ?
Bah nous aujourd'hui sur la partie sécurité, ça m'arrive d'avoir des étrangers, ça m'arrive mais vraiment dans une proportion qui est très 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 faible. J'ai pas trop, sur mon cursus en tout cas, j'ai pas trop cette problématique-là. Globalement, non, ça reste assez là-dessus, j'ai pas trop de difficultés. Je suis pas sûr que sur la partie sécurité, ça soit très une difficulté pour la plupart des cursus quand même.
Moi j'ai déjà donné des cours, il y en avait pas mal, on était bien en 30% en master.
Ouais, franchement, je saurais pas dire. Pour chez moi en tout cas, là, sur mon cursus, moi j'ai pas cette difficulté là.
Oui, parce que là, l'EPITA, c'est des. D'ailleurs, ils étaient en quel. C'est des élèves de quelle année qui ont participé?
Donc là on est au mois de mars, donc c'est l'équivalent de milieu de bac plus 4 à peu près quoi. Okay. Donc ils sont dans la spécialisation sécurité, mais ils viennent de débuter la spécialisation sécurité. Vous avez un mois de cours quoi.
T'es new bye.
Ouais, parce que les masters dont je te parle, je constate que c'est surtout dans les bac plus 6 où en gros, on va dire comme c'est pas considéré comme obligatoire pour trouver du boulot en France et que c'est plutôt du bonus, c'est souvent des étrangers qui viennent se faire diplômer pour avoir un diplôme français un peu prestigieux. Et du coup, là, effectivement, tu te retrouves avec des taux d'étrangers qui sont beaucoup plus importants, quoi. Mais bon.
Et sinon, il n'y avait que des scénarios défensifs ou ça a parlé un petit peu d'offensif également?
Ah bah nous, non, il n'y a pas d'action là-dessus à faire. C'était vraiment de comprendre les vulnérabilités, comment elles ont été exploitées, voir si on trouvait quelque chose qui avait été laissé et l'impact. Et l'impact qui avait été fait.
Donc on suppose qu'on s'est fait avoir, on se fait avoir à tous les coups. Il n'y a pas eu de scénario où on ne se fait pas avoir.
Ouais, je pense que ça aurait été frustrant pour les étudiants. Venez travailler sur un système d'information, mais il n'y a rien. Je pense que pour un exercice, ouais, ça aurait pu, hein, ça arrive des fois dans la vraie vie, mais.
Je pense qu'il y a détecté des tentatives qui ont échoué, c'est-à-dire que c'est 80% de ce qu'on voit dans la vraie vie, hein, des tas de tentatives, des tas et des tas de tentatives, et parfois quelques trucs qui réussissent. C'est ça la vie réelle, en fait. Là, ça n'a pas été pris en compte.
Non, ça a été plutôt là pour le coup, c'était d'aller un poil plus loin. Oui.
Mais aussi de ce côté-là, c'est vrai qu'un système qui aurait été pas exploité justement, en termes de méthodo, c'est assez intéressant parce que les étudiants auraient été obligés de passer tous les trucs en revue, essayer de trouver des bons critères. Et ouais, je pense qu'en termes de méthodo, c'est pas inintéressant en tout cas, pour les forcer à avoir une bonne méthodo.
Ouais, sur la méthode, moi je pense. Ouais. Après, je pense que, par contre, sur la motivation après, l'idée pour aller un cran plus loin après que le concept, c'est peut-être un peu un frein quand même. Faut donner envie, je pense. Donc,
bah, en plus, c'est scientifique, pour... ça fait l'effet placebo, quoi.
Ouais, c'est un peu ça.
Ouais, c'est un peu frustrant aussi, c'est sûr.
Sinon, t'as l'inverse, t'as le cas du système qui est multi-exploité. Ou en gros, tu penses que tu as trouvé quelque chose parce que tu trouves un bon vieux malware dans l'auto, dans la clé run de la base registre. Mais en fait, si tu creuses, en fait, tu te rends compte que l'attaque provient de quelqu'un d'autre à un autre moment et que, en fait, ce que tu as trouvé de manière triviale, c'est juste un truc pas dangereux, quoi.
Tu veux dire que le malware, il est écrit en chinois et en russe?
Tout de suite de la diffamation. Ça, je tolère pas ça.
Non, c'est juste qu'il a jeté les dés d'attribution, il n'y a pas de souci, ça a été fait avec des dés 6 faces calibrés comme il faut.
Ah d'accord.
Garantie aléatoire ou...
L'entropie du random est assurée par les académiques de Rennes. Très bien.
Mais non.
Je pense qu'on a fait le tour. Nicolas, tu vois des choses à ajouter peut-être? Nicolas Caproni?
Il est en mute.
Hop, je remets le micro. Non, bah après c'était juste pour par rapport à DFNet, c'est vrai qu'on s'est concentré sur la partie réserve cyberdéfense, réserve opérationnelle. Il y avait tous les exercices du ministère où là, il y a eu moins d'informations finalement, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup, c'était sur 7 ou 8 sites militaires à Paris et en province. Ils ont même fait des tests sur des navires de combat où ils ont simulé un genre de virus qui aurait paralysé le frigo. Donc, qui nécessitait, sans frigo, c'est assez difficile d'être au large de l'Irak et d'accomplir sa mission. Donc, c'est vrai qu'il y avait aussi cette partie-là sur les attaques, sur les escadas, sur les navires. Donc, c'est aussi un exercice vraiment, je pense, assez complet. D'où on n'a pas forcément beaucoup d'informations, mais ça montre aussi que la partie exercice, c'est vraiment une priorité pour tout ce qui est en cyber. S'entraîner parce que, pour de plus en plus maîtriser, quand on parlait de procédures opérationnelles, parce que c'est assez aussi nouveau pour eux. Donc, c'est vrai que je pense qu'il y aura de plus en plus d'exercices. Et je pense encore plus avec la réserve de cyberdéfense, parce qu'on on n'a pas donné les chiffres, mais normalement la réserve sera de plus de 3000 personnes, donc il y aura quand même beaucoup d'étudiants, donc il y aura quand même beaucoup d'exercices à réaliser, je pense. Comme disait Sébastien, si déjà là il y en a certains qui sont frustrés de ne pas pouvoir les faire, il va falloir trouver des exercices pour tout le monde.
Ouais, moi je pense qu'il y a des exercices, c'est sûr. De toute façon, ça sera un peu obligatoire ce type de population. Hein. L'entraînement, il y aura que ça qui permettra d'avoir une efficacité opérationnelle à la fin. Et puis tu as raison, Nico, de souligner aussi toute l'autre partie de l'exercice, puisqu'on a pas mal parlé de la partie réserve de cyberdéfense à vocation opérationnelle, mais il y a tout le reste aussi qui était quand même de tester. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'agression sans cyber et ça marche dans les deux sens, quoi. Donc. La composante cyber, je pense que maintenant, elle est partout, quoi. Donc, de toute façon, il faut qu'il s'entraîne pour un missile à la défense. Il est forcément obligé de s'entraîner.
Et du coup, la prolongation de l'exercice, c'est de faire ça avec l'OTAN ou... J'ai cru comprendre ça dans les différentes lectures.
Ouais, j'ai vu ça aussi dans les lectures, mais je ne saurais pas dire.
De toute façon, chacun fait un peu ses exercices. Il y a les NISA aussi qui organisent des trucs, il me semble. Hein.
Oui. L'OTAN fait déjà des exercices en tant que tel. Ils avaient communiqué il n'y a pas très longtemps là-dessus.
Je pense qu'il y a l'exercice cyber coalition, ça doit être ça le nom de l'exercice de l'OTAN, il me semble.
On va retrouver des étudiants qui font de la sécurité informatique et qui parlent anglais.
Du moment qu'ils n'ont pas besoin de rédiger en français, ça va.
Mais non, je ne le crois pas.
Bon, et bien sûr, cette bonne parole... On espère que cet épisode vous aura intéressé et on vous dit à très très bientôt pour un nouveau podcast. Salut!
Au revoir!
Ciao ciao!
Salut!
Bien nouveau à Véchal!
Salut!